Pour la prédication de ce matin, j'aimerais vous lire un très court passage, je pense assez connu. C'est juste le début des 10 commandements. Et je vous lis en Exode, chapitre 20. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. » Alors vous avez bien compris que la prédication d'aujourd'hui va s'axer sur le thème de l'idolâtrie. Un thème un peu étrange, qui peut-être sembler dépassé. On pense parfois que ça concerne des civilisations plus primitives que la nôtre. Ben on va voir que ce n'est pas vraiment le cas. Je pense seulement que dans notre société moderne, l'idolâtrie existe toujours, mais de manière plus insidieuse, moins flagrante, peut-être. Tout d'abord, l'idolâtrie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, d'après le Larousse, l'idolâtrie, c'est le fait d'adorer une créature à la place de la divinité. Par exemple, si Dieu crée les animaux, adorer un animal, une créature à la place de la divinité, eh bien, c'est de l'idolâtrie. Si Dieu crée le soleil, eh bien adorer le soleil, c'est de l'idolâtrie. Et ça marche aussi pour la création de la créature. C'est-à-dire que les humains sont des créatures de Dieu, et si l'humain fabrique, crée une statue ou un objet ou autre, eh bien adorer la création de la créature, c'est aussi de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait d'adorer une créature ou une création quelconque à la place de la divinité. Pour en revenir à notre texte, ce texte se trouve dans ce qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Et la Bible attribue la rédaction du Pentateuque à Moïse, il y a plus de 3000 ans. Alors à l'époque, l'idolâtrie, vous l'imaginez, avait une présence très différente d'aujourd'hui. C'était beaucoup plus visible, généralisé. Chaque peuple avait ses dieux. D'habitude, ils en avaient plein. Plusieurs dizaines à la fois, et ces dieux, c'était souvent des éléments de la nature, le soleil ou les animaux pour les Égyptiens, la foudre pour les Mésopotamiens. Les gens adoraient toutes ces choses qui ne sont en fait que des morceaux de la création de Dieu. Mais ces personnes voulaient pouvoir adorer ces créatures dans un temple. Et c'est pas simple de faire entrer le soleil ou la foudre dans un temple pour l'adorer. Alors les gens faisaient en plus des statues ou des images qui représentaient ce qu'ils voulaient adorer. Ils adoraient les statues comme si c'était la divinité elle-même, comme si la divinité existait dans la statue. C'est un truc que je pense qu'on a du mal à comprendre parfois. Pour eux, la statue, c'est pas qu'une représentation, qu'une aide visuelle. Pour eux, la statue, c'est vivant dans leur tête. La divinité se trouve à l'intérieur de la statue. Et du coup, ça pouvait donner des choses parfois assez improbables pour nous. Par exemple, vu que pour les adorateurs de l'époque, la statue est une vraie divinité, mais qui ne peut pas bouger, parce qu'une statue, ça ne bouge pas, eh bien, les adorateurs se disent qu'à force que la divinité ne puisse pas bouger, elle pourrait en avoir marre. Et une divinité qui en a marre, qui n'est pas contente, on a envie d'éviter. Alors, on a des exemples écrits, notamment à Babylone ou en Égypte, des exemples écrits de comment se déroule la journée d'une statue. Est-ce que vous savez comment se passe la journée d'une statue à l'époque de Moïse ? C'est un truc de fou. Alors voilà comment ça se passait. On apporte à la statue 3 repas par jour. Ah oui, sinon elle aurait faim. Si un dieu est comme moi, si la faim il est grognon, et on ne veut pas que la statue soit grognon, donc on lui apporte des repas. Et je ne parle pas de sacrifices rituels dans des cérémonies, non, juste de repas normaux qu'on dépose devant la statue. Alors, bien sûr, elle ne touche pas, il le voyait bien, c'est une statue, mais ce n'est pas grave, on se disait que la statue a dû se nourrir de la substance vitale contenue dans la nourriture, et que du coup elle n'a plus faim, donc voilà. Mais maintenant qu'elle a plus faim, il ne faudrait pas qu'elle s'ennuie. Alors on lui organise tous les jours des spectacles avec de la musique, avec des danseuses plutôt exotiques, histoire que la statue prenne un peu de bon temps. Il faut quand même qu'elle se distrait. Mais c'est pas tout de rester enfermée toute la journée dans un temple. Il ne faudrait pas que la statue en ait marre de rester dans le temple. Alors tous les jours, on sort également la statue pour lui faire faire une petite promenade, histoire de lui faire prendre l'air, ça lui fera du bien. Et tous les jours, c'est comme ça. Voilà ce que c'est l'idolâtrie à l'époque de Moïse. La statue, c'est pas qu'une représentation. C'est la divinité aux yeux des adorateurs. C'est vivant pour eux. Ça nous fait un peu rigoler, sourire, je l'ai dit un peu sur le ton de la plaisanterie. Mais il y a des moments dans la Bible où ça devient un peu moins marrant. Pour ceux qui connaissent l'histoire du veau d'or dans la Bible, rappelez-vous ce que disait le peuple en montrant la statue. « Voici ton Dieu. » Le peuple d'Israël qui venait d'être délivré par Dieu de l'esclavage en Égypte avec des miracles incroyables, ce peuple ne trouve rien de mieux que réduire le Dieu tout-puissant à un veau. Et ils sont fiers de leur idée. Ils font la fête en disant « Voilà, on a été sauvés par Dieu, mais on ne l'a jamais vu, mais en fait, Dieu, c'est lui, c'est ce veau. » On comprend mieux que Dieu n'est pas super apprécié. Ils auraient pu au moins choisir un lion, je ne sais pas. Enfin bon. Alors, je me suis posé une question sur notre texte. Les 10 commandements, c'est quand même un peu un résumé de ce qui est le plus important aux yeux de Dieu. Alors, pourquoi en premier Dieu vient interdire l'idolâtrie? Pourquoi il n'a pas mis « aime ton prochain » en premier? Pourquoi en premier il vient interdire l'idolâtrie? Je veux dire, c'est quoi le vrai problème dans le fait de sculpter une statue pour l'adorer? Pourquoi ça pose problème de faire une représentation de Dieu? Le souci, ce n'est pas la sculpture elle-même, hein. Dieu n'est pas contre l'art, on le voit à plein d'endroits dans la Bible. Alors le souci avec l'idolâtrie, c'est quoi? Eh bien, je vois deux problèmes principaux. Il y en aurait peut-être d'autres, mais je vais en parler que de deux ce matin. Le premier problème, c'est tout simplement une histoire de justice. Quand une personne fait un acte vraiment bien, c'est cette personne qu'on doit remercier, pas le voisin d'à côté. Et encore moins la statue de veau du voisin d'à côté. Et dans l'idolâtrie, on va remplacer Dieu par une créature ou une création, et on va remercier cette créature pour les œuvres de Dieu. C'est pas juste. On se trompe de cible. Celui qui mérite la gloire et l'honneur pour tout dans ce monde, c'est pas une statue, c'est pas nous-mêmes, c'est pas un élément de la nature, mais c'est Dieu, vu qu'il est à l'origine d'absolument tout. La gloire et l'honneur appartiennent à Dieu. Et donner la gloire ou l'honneur à quelqu'un d'autre ou autre chose qu'à Dieu, c'est injuste. Et Dieu déteste l'injustice. Petit exemple, pour montrer qu'on n'est pas à l'abri de ça, même dans les églises. Malheureusement, je l'ai peut-être vu un peu trop souvent à mon goût. Pas ici, je vous rassure. Mais glorifier un pasteur ou un prédicateur parce qu'on trouve que ce qu'il dit ou fait est génial. C'est en partie injuste. C'est Dieu qui est à l'origine des dons que cet humain a reçus. C'est Dieu qui est à l'origine de l'appel de cette personne à servir le Seigneur. Et l'apôtre Paul va même jusqu'à nous dire que c'est Dieu qui est à l'origine du vouloir et du faire qu'il place dans notre cœur. Le pasteur, le prédicateur ou tout autre serviteur ou servante de Dieu, il n'y a absolument pas de quoi les glorifier. Mais notre service pour le Seigneur doit toujours rendre gloire à Dieu et à lui seul. Voilà ce qui est juste. Sinon, on attribue à une créature l'œuvre du Créateur. C'est de l'idolâtrie. On peut se dire merci quand même pour les services qu'on se rend les uns aux autres. Mais la gloire, ça c'est la politesse, c'est pas de l'idolâtrie. Mais la gloire et l'honneur doivent être rendus à Dieu. Voilà le premier problème avec l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout simplement une énorme injustice. Et le deuxième problème que je voudrais soulever, peut-être qu'on y pense un peu moins, c'est qu'en fait, Dieu a déjà créé lui-même son représentant. Dieu a fait une créature qui doit le représenter sur terre. C'est l'être humain. Alors, nous ne sommes pas des sosies ou des statues de Dieu, mais l'être humain représente Dieu sur terre. En fait, dans la Bible, c'est comme si Dieu était le roi, l'empereur, et qu'il plaçait sur terre un gouverneur. Un gouverneur qui représente l'autorité de son empereur. Il n'est pas son empereur, il représente l'autorité de l'empereur, et il doit aussi rendre compte à son souverain, hein, de la charge qui lui est confiée. Vous savez, c'est ce fameux texte en Genèse 1 où Dieu dit « Faisons l'homme en notre image ». Alors, on ne parle pas de ressemblance physique. Faire quelqu'un en l'image d'une autre personne, c'est en fait une expression de l'époque de Moïse. Une expression qui était utilisée lorsqu'un roi déléguait une certaine autorité à un gouverneur, notamment. L'empereur envoyait un gouverneur dans une région de son empire pour être son image dans cette région, c'est-à-dire pour représenter l'autorité de l'empereur. Eh bien, Dieu a placé les humains sur terre un peu dans la même optique pour gérer et prendre soin de la création de Dieu. Nous sommes ses gouverneurs et il nous confie la gestion du territoire qu'est cette planète, cette création. Et comme tout gouverneur, nous devrons rendre des comptes à Dieu en fonction de comment nous aurons bien géré ou non sa création. On est mal barré. Heureusement que Dieu nous pardonne en Jésus-Christ. Dieu a créé son représentant. Et le souci avec l'idolâtrie, c'est de créer nous-mêmes une autre représentation de Dieu. Ça revient en fait, l'idolâtrie, à nier ce que nous sommes. Ça revient à refuser le rôle que Dieu nous attribue. Ça revient à se décharger de ce rôle, de cette responsabilité sur une statue en pierre ou en bois ou autre chose. Ça revient à rejeter un cadeau que Dieu nous fait, un cadeau. Parce que oui, c'est une responsabilité d'être le gouverneur de Dieu, mais par la même occasion, Dieu nous offre une relation avec lui qui est bien plus intime qu'avec toutes ses autres créatures. Un gouverneur partage avec son empereur bien plus que le peuple peut partager avec le souverain. Dieu nous propose, avec cette responsabilité, la relation d'un père avec ses enfants qu'il a engendrés et qu'il s'est choisi. Rejeter Dieu pour lui préférer une idole, c'est rejeter ce que Dieu a fait de nous. Et c'est aussi rejeter la relation qu'il a toujours voulu avec nous. Alors je pense que vous aurez remarqué que l'idolâtrie de l'époque de Moïse ne correspond pas tellement à des pratiques de notre société occidentale, mais j'ai réfléchi à quelle pourrait être la grande idole moderne s'il y en a une. J'ai d'abord regardé un peu du côté des réponses toutes faites qu'on entend régulièrement, et j'avoue qu'elles ne m'ont pas satisfaite. J'ai souvent entendu dire que la télévision, ou plus récemment les smartphones, seraient des idoles modernes. Ça ne me convainc absolument pas. Je veux dire, la télé ou les téléphones, oui, sont au centre de nos vies modernes, d'accord. On y consacre beaucoup de temps, sûrement trop de temps, moi le premier. Mais de là à parler d'idole, dans le sens qu'on a vu plus tôt, ça ne colle pas, ça ne marche pas. On parle souvent, sinon, de l'argent, comme d'une idole. Et la Bible elle-même parle de l'argent comme d'une idole potentielle. C'est pas faux, l'argent peut devenir à la fois le sens et le but de l'existence des humains. Mais quand je regarde autour de moi, même parmi tous mes amis qui ne sont pas croyants, l'argent est plus souvent vu comme un outil indispensable, important, mais pas comme ce qui sera réellement la source ou l'origine de la vie ou du bonheur ou de tous les actes de ce monde. Donc l'argent, pourquoi pas, ça peut le devenir. Mais j'aimerais trouver s'il ne pourrait pas y avoir une autre idole moderne, à la fois plus répandue, plus générale, et pourtant plus cachée à la fois. Et il y a quelques années, quand je me posais cette question, en fait, je suis tombé sur une pub, et je me suis dit, voilà, c'est ça, la grande idole moderne, pas la publicité, mais ce dont nous parle cette publicité. Alors justement, eh bien, pour garder un peu le suspense, pour vous laisser découvrir, on va regarder ensemble cette publicité. Et puis on en reparle après. Je cherche encore le lien entre le produit et la publicité, mais bon, c'est un produit que j'aime bien. Non, c'est pas la Guinness, l'idole, mais cette pub nous montre un monde, notre monde, un monde en cours de création, et dans la pub, celui qui crée le monde, c'est les humains. Avec ce slogan à la fin, hein, qu'on pourrait traduire par « Donne vie à cet endroit ». Bring this place to life, comme si l'homme devait apporter la vie sur terre. On voit les humains créer les nuages et la pluie, ils sculptent le corail, ils séparent les continents à coups de masse, ils lâchent les animaux dans ce monde, ils plantent des forêts, ils entassent des pierres pour en faire des montagnes, ils sont heureux de ce qu'ils accomplissent ensemble, ils s'émerveillent devant leurs œuvres, bref, les humains créent le monde. Alors les humains ne sont pas, je pense, débile au point de croire qu'ils ont créé cette planète, mais je pense que c'est révélateur d'un état d'esprit assez omniprésent. Les humains sont capables. Ils peuvent dominer, ils peuvent gérer, ils peuvent prendre en main leur vie, ils peuvent lutter contre la maladie et la mort, ils peuvent donner la vie, ils peuvent prolonger la vie, pourquoi pas jusqu'à même pouvoir retarder la mort, jusqu'à la vaincre. Les humains peuvent remplacer un membre ou un organe qui ne fonctionne plus. Ils peuvent donner la vie, même artificiellement. Ils peuvent choisir les caractéristiques d'un enfant à naître. Et du coup, ils peuvent même rêver d'améliorer l'espèce humaine. La vie devient un choix. La santé devient un droit parce que l'être humain devient, je le pense, son propre Dieu. L'humain est capable, l'humain est doué, l'humain peut, il sait et il se glorifie de ses qualités, de ses capacités, de ses actes, de ses idées, de ses inventions et de son potentiel. À l'époque de Moïse, les humains maîtrisaient si peu de choses de leur monde qu'ils attribuaient la gloire de presque tout à tout un tas de divinités. Mais dans notre monde moderne, celui qui reçoit le plus de gloire et le plus d'honneur, c'est l'être humain lui-même, je le pense sincèrement. Et c'est comme ça que l'humain est devenu sa propre idole. Et ne rêvons pas, nous-mêmes et nos églises ne sont pas à l'abri de ça. Je vais parler un peu de nous ici, de notre assemblée. Le 10 mars, lors de notre assemblée générale, nous ferons ce qu'on appelle un bilan d'activité, comme on fait chaque année, pour parler de l'année écoulée, pour envisager les projets de l'année à venir. Et pour vous parler franchement, on est en train de préparer ce bilan et je suis assez impressionné en fait par tout ce qui s'est passé en une année dans notre communauté, de tout aussi les fruits visibles que c'est déjà en train de donner. Il y aurait de quoi se dire que finalement, on est doué, hein, on a fait ce qu'il fallait. Nous sommes en train de réussir nos projets sérieux. On est bon ou pas? Mais non. Nous n'avons aucune gloire à retirer de rien, parce que lorsque Dieu bénit, il ne bénit jamais nos œuvres, il bénit seulement les siennes. Et c'est justement pour ça que notre but, en tant que croyants, en tant que disciples du Christ, c'est observer, voir ce que Dieu fait, discerner son plan, observer son œuvre, afin de simplement l'y rejoindre pour nous mettre à son service, et que par notre service, eh bien, nous lui rendions justement la gloire et l'honneur qui lui reviennent. Et si des projets réussissent, s'ils fructifient, s'ils sont bénis, c'est simplement parce que ce sont ceux de Dieu. Et si ça foire, parfois, c'est sûrement qu'on s'est peut-être un peu planté dans notre discernement. Et alors, avec humilité, dans notre dépendance totale de Dieu, il nous faut revenir constamment à sa volonté, à sa parole, à la relation qu'il nous offre, pour qu'en le connaissant mieux, nous puissions mieux discerner son œuvre et que sa volonté devienne la nôtre. Mieux connaître le Christ, pour mieux lui ressembler, pour mieux le rejoindre, pour mieux le servir, afin de mieux le faire connaître et lui rendre en toute chose la gloire qui est la sienne. Voilà notre but en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Christ, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église. Et c'est d'ailleurs comme ça que nous avons résumé ici, dans cette Église locale, notre vision d'Église. Mieux connaître Jésus et le faire connaître afin de magnifier le nom de Dieu. Alors je nous encourage à grandir ensemble vers la maturité de notre foi en Christ, la maturité de nos pensées et de nos actes au service du Seigneur. Et c'est justement ce à quoi nous voulons travailler dans les mois à venir. Je fais un peu de spoil là, mais beaucoup sont déjà au courant. Nous allons y travailler en vous proposant deux ateliers, intitulés pour l'un maturité et pour l'autre ministère, ce qui veut dire service. Ces ateliers prendront du temps. Ça sera un engagement. Ça va prendre bien plus de temps que l'atelier membre que beaucoup ont pu vivre, hein, si vous l'avez vécu au mois d'octobre. Ça demandera un investissement personnel, parce que l'atelier maturité, c'est 4 rencontres d'1h30 chacune. L'atelier ministère, c'est 3 rencontres d'1h30, suivies d'un accompagnement individuel, avec des thèmes qui remuent, qui peut-être pourront nous remettre en question sur notre vie, nos pensées, notre manière d'être ou d'agir. On n'obligera personne, hein. On n'a jamais obligé personne et on ne le fera pas. On fera avec ceux et celles qui veulent entrer dans ce cheminement. Mais si jamais ça nous fait peur de penser à toutes ces rencontres, à tout le temps qu'il faudra dégager pour ces ateliers, posons-nous une question, une seule, essentielle. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas ? Nous faire grandir en maturité spirituelle pour mieux rejoindre Dieu dans ses œuvres à lui, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas ? Si la réponse est oui, ayons la certitude que ce que Dieu veut est fait. Il le bénit. Amen.